Ces enregistrements ont été réalisés lors du séminaire Évangile 21 intitulé « La parole et les actes, la vie du disciple à la lumière de la croix » qui s'est tenu à l'Institut biblique de Genève au mois de mai 2016. Les droits appartiennent à Évangile 21.
Alors, parler du travail et de la carrière, c'est-à-dire du métier qu'on exerce et dont on vit, c'est parler de questions qui constituent souvent la trame majeure de notre emploi du temps. Entre trouver sa voie pour les jeunes, se préparer à un métier, chercher ou se créer un travail, et surtout vivre en chrétien témoin de Jésus-Christ sur son lieu de travail, voire exercer de grosses responsabilités dans le monde souvent corrompu, ce sont des questions rarement abordées. Alors au début de ma pré-retraite, qui remonte déjà à pas mal d'années, en 1995, une église m'avait demandé un week-end sur le sujet du travail. Et je me suis aperçu que peu de livres chrétiens existaient, peu de littérature, à part un très bon livre du pasteur Somerville, dont je me suis d'ailleurs pas mal inspiré, qui parlait de l'éthique du travail. Alors quelques années plus tard, alors que j'étais président des presbytériens universitaires de France, David Brown m'a demandé de rassembler un peu les éléments de ma réflexion dans un petit livre qui s'appelle « Le travail, malédiction aux valeurs chrétiennes ». C'est dans, j'espère que vous connaissez cette excellente série qui est question suivante, qui s'adresse à des étudiants mais aussi à un public un peu plus large. Alors vous trouverez donc ce fascicule au stand de librairie et beaucoup d'éléments, certains je les développe, ils sont là-dedans, et d'autres je ne ferai que survoler, vous les trouverez là-dedans. Alors pendant ma carrière de 30 ans, de 1965 à 1995, dans une grande multinationale américaine de l'informatique, j'ai eu la grâce d'avoir assez de temps pour me consacrer à deux églises locales dans la région de Montpellier, successivement, une église mère et puis un essaimage, et aussi à diverses œuvres chrétiennes, les GBU, groupe biblique universitaire, de France, et aussi je me suis occupé d'une mission internationale visant les peuples non atteints, une vision aussi mondiale. Et au cours de cette carrière heureuse, j'ai beaucoup appris l'informatique, l'économie, l'organisation, la gestion du personnel, le management, j'ai vu évoluer les systèmes de management. J'ai beaucoup observé les premiers balbutiements de l'informatique, dont nul à l'époque ne pouvait prévoir la révolution à laquelle nous assistons actuellement. J'ai aussi souvent transposé, dans plusieurs associations chrétiennes dont j'ai eu à m'occuper, quelques principes appris dans mon travail séculier. J'ai alors pu constater que bien des choses apprises du monde du travail se sont révélées utiles dans la gestion du ministère chrétien, à condition de les adapter, bien sûr. Alors, je ne suis pas du tout un théologien de métier. C'est donc en toute modestie que je voudrais faire un survol rapide et forcément sommaire de quelques textes de la Bible qui me paraissent importants autour de ce thème. Est-ce qu'on pourrait allumer l'ordinateur pour la présentation? Voilà, alors nous allons d'abord illustrer le fait que le travail est une notion ambivalente, c'est-à-dire qu'elle peut à la fois vous ramener une image positive, l'épanouissement au travail, par exemple, mais aussi, pour beaucoup, et ça peut se passer à différents moments de la vie, une image négative, celle d'une souffrance au travail. Et j'ai été interpellé par ce caractère ambivalent de la notion de travail, et nous verrons donc, dans les premiers chapitres de la Genèse, comment la Genèse explique cette ambivalence. Nous verrons ensuite plusieurs autres textes de l'Ancien Testament, des textes législatifs qu'on trouvera dans le Pentateuque, mais aussi des textes de sagesse, et nous évoquerons aussi une ou deux figures de l'Ancien Testament pour répondre à une question qui est toujours actuelle, qui est celle de l'exercice de responsabilités élevées dans un monde de plus en plus païen. Et nous verrons ensuite les apports spécifiques du Nouveau Testament au message de l'Ancien Testament, puis nous verrons comment la réforme a essayé de transmettre et d'incarner ce message au XIXe siècle et ce qui en reste encore aujourd'hui avant de conclure. Le travail présente donc une ambivalence, il peut être la meilleure ou la pire des choses. On a pu on a pu tuer des êtres humains par le travail, comme à Auschwitz, dont la porte d'entrée portait l'inscription suivante « Arbeit macht frei », le travail rend libre. Mais on peut aussi détruire les hommes en les condamnant au chômage. Les trois verbes évoquent le travail dans notre langue, nous permettront d'illustrer cette ambivalence. Il y a d'abord le mot ordinaire « travailler ». Ce mot vient d'un mot latin, tritalium, qui est un instrument de torture. Il nous envoie un message négatif. Mais c'est le plus récent. Il n'est utilisé que depuis le XVIe siècle. Image négative. Un second mot était utilisé au Moyen-Âge. C'était œuvrer. Œuvrer, c'est le terme utilisé au Moyen-Âge. Et on raconte cette histoire que je voudrais vous raconter. Il y a eu un jour un contremaître au Moyen-Âge, interrogeant différents tailleurs de pierre sur un chantier d'une cathédrale. Un premier ouvrier lui demande « Que fais-tu ?» Et l'ouvrier lui répond « Vois, je taille une pierre. » Allant plus loin, il s'adresse au second ouvrier avec la même question, et celui-ci répond « Je nourris ma famille. » Il se dirige enfin vers un troisième, et lui pose la même question, il répond « Je construis une cathédrale. » À une même question, trois réponses différentes. La même tâche peut être vécue de façon bien différente selon le regard que nous y posons. L'étude de et la méditation de la parole de Dieu, je le souhaite en tout cas, pourront changer notre regard sur notre travail actuel. Et besogner, ce terme était utilisé autrefois pour décrire des tâches beaucoup moins valorisantes. Il contient la racine de besoin. Travailler est une nécessité pour la plupart des hommes, car c'est par le travail que nous pouvons satisfaire des besoins légitimes et aussi donner à d'autres. Donc à travers ces trois verbes, on voit toute la complexité du travail. Il y a le travail même qu'on s'inflige à parfois à soi-même lorsqu'il dépasse nos limites. Il peut nous détruire, il peut devenir humain. Mais priver l'homme de la possibilité de travailler pour subvenir à ses besoins, c'est lui enlever sa dignité, une partie de son humanité, faire de lui un assisté, ou alors le pousser vers des activités illicites. Alors, ouvrons donc notre Bible et commençons par le premier chapitre de la Genèse. La Genèse, le premier chapitre, nous dresse une grande fresque à la forme très élaborée de la création de l'univers en 6 jours, et dont l'homme est le couronnement. Dieu est créateur par sa parole, mais il agit aussi par son esprit. L'homme est le couronnement, Dieu est le créateur par sa parole. L'homme et la femme sont créés à la fin du 6e jour en son image. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Et vous voyez là 4 verbes qui sont utilisés. Les 2 premiers, « Multipliez » et « Remplissez la terre » sont relatifs au mariage. On en a parlé hier soir. Un mariage entre un homme et une femme en vue de la fécondité, en vue de remplir la terre. Par contre, remplissez la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, c'est toute la relation de l'homme avec la nature. Et donc, c'est déjà la première apparition du travail. Le travail, comme la famille, sont créés avant la chute. Ils sont donc, par essence, des choses positives. Alors, sans entrer dans le détail de l'interprétation du verset « L'homme en son image », il faut simplement rappeler que l'homme n'est qu'une créature, il n'est pas Dieu. Mais il a un statut tout à fait unique parmi les autres créatures d'être fait en son image. Et cela lui confère une responsabilité. Dieu donne au premier couple l'ordre de croître, de multiplier, de dominer et de rester, et de dominer sur le reste de la création. Nous avons donc 3 éléments. Un Dieu créateur par sa parole et aussi agissant par son esprit. Une terre peuplée d'êtres vivants qui est l'espace donné à l'être humain. Et un premier couple humain appelé à peupler la terre d'une part et aussi à la dominer. Et c'est là donc qu'est le travail. En dominant la création, il peut utiliser ce que Dieu a créé pour le transformer, l'assujettir ou lui donner de la valeur. Le travail de l'homme est donc dans le prolongement du travail de Dieu. par son travail, l'homme continue donc à ressembler à son créateur. Et tout cela, ça a été très long. Nous tournons une page et nous passons au second chapitre. C'est comme une nouvelle histoire de la création. C'est un second et nouveau récit de la création qui vient compléter la fresque du chapitre 1. C'est comme si un second projecteur qui vient maintenant éclairer les relations entre Dieu comme créateur, l'homme, son ultime créature, faite en son image. Et le second récit commence par « L'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Le nom de Dieu, remarquez qu'il a changé. L'Éternel Dieu, c'est le nom traditionnel de l'Alliance, l'Éternel Yahweh. Le nom de l'Alliance. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Maintenant, l'espace se restreint. Dans le chapitre 1, l'espace donné à l'homme, c'était la terre entière. Là, l'espace, c'est un jardin. Ça devient un jardin. Alors, dans ce second récit, l'homme et la terre qui lui est destinée vont préciser ce qu'on appelle les formes de la première alliance dans le jardin d'Éden. Et quand Dieu fait une alliance avec l'homme, on y trouve en général trois éléments, je pense que vous le savez ça. Dieu fait d'une part une promesse de grâce unilatérale à l'être humain, posséder le jardin d'Éden, mais il conditionne la réalisation de la promesse à l'obéissance de l'homme à une loi. Et troisièmement, Dieu avertit l'homme des conséquences d'une désobéissance. Tu mourras. Et on trouve bien ces trois éléments. À l'homme est offert un jardin des délices, c'est le sens du mot Éden, dans lequel rien ne manque. Il est invité à manger de tous les arbres qui peuplent le jardin. Mais il doit reconnaître la souveraineté de Dieu, son créateur, en respectant un seul interdit, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car cela signifie en clair ne pas vouloir prendre la place de Dieu pour décider lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal pour lui. Et enfin, la mort, avec un retour à la terre, sera la conséquence du non-respect de l'interdit. Alors l'harmonie des origines n'est possible que dans le respect de cette première alliance. Quelle est alors la place du travail dans cette première alliance? Je propose de faire la synthèse des deux chapitres et je propose trois verbes. Cultiver, garder et connaître. Cultiver, c'est mettre en valeur les ressources naturelles déjà présentes, c'est récolter le fruit, le transformer éventuellement. On peut étendre le concept de culture en utilisant la notion moderne de valeur ajoutée. Tout travail, quel qu'il soit, doit ajouter de la valeur à ce qui m'a été confié au départ, que ce soit de la matière, que ce soit un objet, que ce soit une personne humaine ou que ce soit la société en général. Quelle est la valeur ajoutée de mon travail aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Ce n'est pas toujours facile d'y répondre. Ce n'est pas toujours facile. Deuxièmement, garder. Alors, on peut être surpris de la présence de ce second verbe dans un contexte de ce récit. Y aurait-il déjà un ennemi? Oui, en effet, la suite du récit nous montre que le serpent est déjà dans le jardin d'Éden. Mais à part cela, toute intervention humaine peut porter atteinte à certains équilibres, que ce soit dans la nature ou dans la société, ne faut-il pas les préserver? La volonté de Dieu pour l'être humain est non seulement qu'il produise de la richesse ou de la valeur, mais aussi qu'il conserve la terre belle, telle qu'elle était au premier jour, et la société harmonieuse qui allait émerger de ce premier couple. Et troisièmement, connaître. Plutôt que dominer, assujettir, j'ai voulu connaître. Je prends peut-être un petit risque théologique. J'espère que Henri Blocher me le pardonnera, parce que je me suis beaucoup inspiré, bien sûr, de son livre pour ceci. Connaître pourquoi? Je préfère le mot connaître, parce qu'on ne peut pas contrôler et dominer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, lorsque Dieu fait défiler devant Adam les animaux du jardin d'Éden pour qu'il leur donne un nom, il pose un premier acte de connaissance. Mais dans la culture antique, c'est aussi un acte de souveraineté. On verra tout à l'heure, Daniel, son suzerain Nabucodonosor, a changé son nom. Connaître une chose permet à terme de la maîtriser ou de la dominer. Donc à travers ces trois verbes, on peut, je crois, avoir une vue générale de ce qu'est le travail humain. et de l'humble tâche d'une aide-soignante qui s'occupe d'un malade au calcul ardu d'un astrophysicien qui essaye de comprendre la physique des premiers instants de l'univers. Tout cela fait partie de la vocation de l'homme que Dieu lui a confiée. Le monde entier a été créé très bon par Dieu, offert à l'homme créé en son image pour y représenter son créateur. Il a mandat de peupler la terre, d'une part, par son travail et de la valoriser. L'homme est en position d'intendant. Il a reçu une responsabilité dont il aura à rendre compte un jour devant son créateur, et son intelligence lui donne le pouvoir d'agir. Et enfin, l'humanité est appelée à se développer selon ces trois directions. Celle de la nature par son travail, celle de son prochain pour en prendre soin, et celle de son créateur. Et Jésus, dans son incarnation dans une nature totalement et pleinement humaine, a assumé le travail manuel dans son humanité, dans le métier de son père charpentier. La Bible n'en parle pas explicitement, mais ça ne fait, à mon avis, aucun doute. Alors, pour nous chrétiens, qu'est-ce que cela nous apporte? Je crois que c'est une exhortation à trouver et à maintenir un équilibre harmonieux entre ces trois composantes, à savoir Dieu, mon travail dans ce monde et mon prochain, commençant par ma famille et ma communauté. Et si nous trouvons cette harmonie, je pense qu'il y a une grande joie en perspective. Mais dès qu'elle est rompue, il y a de la souffrance qui peut venir. Alors nous allons voir maintenant les effets de la chute sur le travail. Malheureusement, le chapitre 3 nous relate comment l'homme et la femme ont violé cet unique interdit suite à la tentation du serpent et fait voler en éclat cette première alliance. Ils ont voulu être comme des dieux, décidés pour eux-mêmes du bien et du mal en rejetant leur suzerain. La communion avec Dieu a été rompue et la relation au prochain altérée. Et lorsque Dieu constate la désobéissance, il dit à l'homme: le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La vocation de dominer la terre n'a pas changé, mais le travail deviendra pénible. Il y aura une sorte de lutte permanente de l'homme avec la terre. Une idée d'ailleurs reprise par Karl Marx, pour qui le travail est une lutte constante contre la nature. Mais la Bible nous dit que dans cette lutte, c'est finalement la terre qui aura le dernier mot. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et on trouve ici déjà ce caractère éphémère de tout travail humain. La mort y met fin. Que restera-t-il de mon travail ici-bas? C'est le livre de l'Ecclésiaste qui va nous en parler. Donc je résume, le travail fait partie de la condition humaine, mais nous restons en image de Dieu, une image certes défigurée. C'est le sol qui est maudit, mais et non l'homme, mais l'épanouissement est possible dans le travail, malgré sa peine. Mais on n'éliminera jamais sa peine. Rechercher équilibre entre travail, famille et communauté, et relation à Dieu. Alors, nous poursuivons notre promenade dans l'Ancien Testament en évoquant ce que dit le reste du Pentateuque sur le travail. Alors, il y a une chose tout à fait étonnante et originale. La Bible est le seul livre de l'Antiquité à avoir une telle approche. Lorsque vous ouvrez un dictionnaire de théologie biblique et que vous cherchez travail, on vous en renvoie au mot repos, c'est-à-dire au commandement sur le sabbat. Et ce quatrième commandement, qui est à cheval, comme vous le savez, entre la première table de la loi, qui correspond à nos relations avec Dieu, et puis la deuxième partie, qui est la relation avec les autres hommes, il y a cette loi sur le travail, sur le repos. Le travail, comme le repos, sont une manière pour l'humain d'agir en imitation de Dieu et donc de le glorifier. Tout simplement, c'est comme si ce récit, la création en six jours, plus un septième jour où Dieu se repose. Donc quand l'homme se repose, il imite aussi Dieu dans son repos. Alors, le repos du septième jour, j'aime bien le résumer par trois lettres, par trois mots. C'est du repos pour le corps, qui est nécessaire, le cycle 7 est un cycle optimal pour notre organisme, se reposer par rapport à son corps, prendre du recul par rapport à son travail, c'est ce que Dieu fait, mais aussi nourrir sa relation avec lui, les trois R du sabbat. Alors quelles sont, par ailleurs, les lois qui régissent le salaire, par exemple, dans l'Ancien Testament? Elles sont là. Elles tournent autour de deux principes, justice et équité, en particulier envers les personnes faibles. Mais qu'est-ce qu'un juste salaire? C'est un salaire convenu à l'avance et permettant de faire vivre sa famille. Le salaire convenu doit être versé sans délai. Lévitique 19:13, tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Si vous retardez le salaire, c'est du vol. C'est du vol. Ensuite, le fait de respecter les contrats, qui sont en général oraux, c'est fondamental. On se souvient du différend entre Jacob et Laban, par exemple, qui ne veut pas lui laisser constituer son troupeau personnel. Et dans leur ultime rencontre, Jacob lance à Laban: « Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. » Dernière disposition concernant l'esclavage. L'esclavage est très pratiqué dans le monde ancien, et la loi d'Israël le permettait néanmoins vis-à-vis des étrangers. Mais elle le vide totalement de sa substance pour un Israélite, car Dieu a délivré son peuple justement de l'esclavage en Égypte. Voici ce qui est écrit dans Lévitique 25:39. « Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. » Et là, il y a une disposition tout à fait unique, tout à fait extraordinaire, vous la connaissez certainement. Il y avait les cycles des années sabbatiques où la terre se reposait tous les 7 ans. Mais tous les 7 fois 7 ans, c'est le grand jubilé. Et tous les 49 ans, tous les esclaves devaient retrouver leur liberté et les terres retourner à leurs propriétaires, évitant ainsi l'accumulation foncière qui est source de tellement de maux. Le travail comme le repos un jour sur 7 sont une manière pour l'homme d'agir en imitation de Dieu. Justice, équité, respect de la parole donnée sont à la base de l'éthique du travail. Des concessions sont faites néanmoins à une humanité déchue. L'esclavage reste toléré pour des étrangers, mais vidé de son caractère irréversible pour le peuple d'Israël, grâce aux années de Jubilé. Nous abordons maintenant, dans notre promenade, les livres de sagesse, comme Proverbes et l'Ecclésiaste. Les livres de sagesse existent dans la plupart des civilisations antiques, et l'amour de la sagesse se dit philosophie en grec. Platon fut l'un des premiers grands philosophes grecs, et l'Ecclésiaste, qui est probablement un pseudonyme d'ailleurs, fut le plus grand sage d'Israël. Et l'important en philosophie, c'est toujours, on vous l'a peut-être appris, définir ses présupposés, son point de départ. Alors, quels sont les présupposés de l'Ecclésiaste? Le premier verset est un peu curieux, Ecclésiaste 2, verset 22. « Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues, sous le soleil ?» Ce petit mot « sous le soleil », que signifie-t-il? Il signifie, je crois, que l'Ecclésiaste prend comme point de départ notre terre et l'observation du monde attentive dans sa diversité et dans ses contradictions pour trouver la meilleure conduite possible, le plus de bonheur et de joie possible. Son approche est humble, modeste, pragmatique. Elle contraste singulièrement avec la philosophie des Grecs. Et le deuxième grand point fondamental, c'est la crainte de l'Éternel. Ecclésiaste 12, 13, « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. » Et au chapitre 3, verset 11, un autre très beau verset de l'Ecclésiaste, « Dieu fait toute chose belle en son temps, en son temps. Même, il a mis sur leur cœur la pensée de l'Éternel, de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Toute sagesse humaine n'est que folie devant Dieu si elle ne prend pas aussi en compte son, comme point de départ et d'aboutissement la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors contrairement à Platon, qui derrière les apparences changeantes dans le monde, cherche le monde immobile des idées et des dieux, l'Ecclésiaste n'éprouve nul besoin de spéculer sur ce qui se trouve ailleurs que sur le sol. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, dit-il. Il accepte donc paisiblement la finitude de sa propre connaissance. Et en notant par exemple qu'il a fait toutes choses belles en son temps. On pense souvent que l'Ecclésiaste est un livre pessimiste et désabusé. J'espère que vous repartirez de cette salle en pensant que c'est pas si pessimiste que ça. Pas du tout. Il se réjouit de la beauté de la création et pressent même peut-être confusément qu'au-delà de cette vie ici-bas, il y a l'éternité. Alors, à partir de là, quels sont les constats? Quels sont les constats de l'Ecclésiaste? Premier constat, nous devons accepter nos limites. L'homme ne peut découvrir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, Ecclésiaste 3, verset 11. Ce qui est courbé ne peut pas être redressé et ce qui manque ne peut être compté, Ecclésiaste 1, verset 15. L'Ecclésiaste, voyez-vous, nous invite à accepter notre finitude, nos limites, autant dans nos connaissances que dans nos actions. Nous devons accepter nos ignorances et nous devons accepter notre impuissance. Nous devons résister à l'idée de vouloir nous dépasser en permanence nos propres limites ou d'entrer en concurrence avec les autres. Jamais nous ne pourrons appréhender l'œuvre de Dieu dans sa totalité, même le théologien ne le peut pas. Et le scientifique doit aussi connaître les limites de sa propre connaissance. Mais le travail peut aussi devenir une idole. Ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. Il peut être une idole lorsque nous pensons que grâce à la technique et à la technologie, tout devient possible. Tout problème a une solution. Et si la solution pose un nouveau problème, on y apportera une nouvelle solution, et ainsi de suite. La technologie, sans s'en rendre compte, est devenue une idole qui prend la place de Dieu. Or, nulle technique ne pourra jamais redresser ce qui est définitivement courbé, c'est-à-dire le cœur humain, ni y ajouter ce qui lui manquera jamais, c'est-à-dire Dieu, comme Pascal le disait, l'homme a dans son cœur un vide en forme de Dieu, seul lui peut le remplir. Deuxièmement, le travail nécessite de la sagesse et implique des risques. Et là, vous allez peut-être être surpris par mon choix. Premier verset, dans Ecclésiaste 10, verset 6. L'incompétent, promu au poste des plus élevés, est une méprise pour celui qui gouverne. Il est important d'être compétent si on veut être dans un travail séculier. En sachant que la compétence n'est jamais que, et c'est plus que du savoir. La compétence, c'est aussi du savoir-faire, et c'est même, certains diront, du savoir-être. Nous devons donc veiller sur nous-mêmes et rester, devenir compétent d'abord, ensuite le rester, entretenir la compétence de nos subordonnés, en évitant des recrutements et des promotions à des personnes qui dépassent, comme on dit, leur seuil d'incompétence. Ayant tous le désir d'offrir aussi au Seigneur le meilleur de nos compétences, parce que son œuvre en a réellement besoin. Il faut être compétent. Deuxième règle de sagesse, il faut accepter les risques inhérents à toute activité humaine. Quel verset mieux que celui-ci pour illustrer les risques de la technologie ? Il y a des risques qu'on peut prévoir et que l'on doit éviter. Le Deutéronome, par exemple, obligeait les Juifs à prévoir des balustrades sur les terrasses de leur maison. Lorsque nous construisons un système informatique, il nous faut le protéger et surtout protéger nos données, car une perte de données, ça peut représenter des années de travail qui se volatilisent. Et d'autres risques sont dus souvent à l'erreur ou à la négligence humaine. L'homme est faillible sur tous les plans et la défaillance arrivera nécessairement avec une certaine probabilité. Et d'autres risques peuvent venir de la nature, le serpent qui vous mord lorsque vous travaillez sur un mur. Et nous avons deux parfaites illustrations de ce risque. La catastrophe de Tchernobyl, c'est un très bon exemple d'une défaillance purement humaine au cours d'un exercice de sécurité. Et quant à la catastrophe de Fukushima, c'était un risque naturel imprévu. Aucune technique ne pourra jamais totalement éliminer tout risque dans l'activité humaine. La toute-puissance est aussi vaine que la toute-sécurité. Et enfin, savoir utiliser de bons outils. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Il faut de bons outils. Et bien sûr, l'informatique est maintenant omniprésente dans tous les métiers. Donc, maîtrise de l'informatique, mais pas que. Lorsque vous voulez obtenir un résultat, il faut aussi une organisation qui soit bien pensée. Et j'ai eu l'expérience de mauvaises organisations qui ont créé beaucoup de problèmes dans le travail par la suite. Voici donc, il y a encore un dernier point. Le travail est éphémère, et nous ramène à la modestie de la condition humaine. Et nous avons ce célèbre refrain qui revient dans l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité, vous connaissez ce terme. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais pris à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Deuxième verset, Ecclésiaste 1:11. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Et troisième verset, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Alors le mot vanité, c'est un mot hébreu qui se dit ebel ou ebel et qui signifie un souffle vite éteint, une vapeur, une réalité passagère. La vanité des œuvres humaines ne signifie donc pas pour l'Ecclésiaste leur elle ne signifie que leur précarité, leur fragilité, leur caractère transitoire, mais non inutile. N'est-ce pas fondamentalement la caractéristique de tout travail humain, même celui que nous faisons pour le Seigneur? Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Les choses même éphémères ne s'oublient plus. Il y a tout un branche de l'art qui s'appelle le street art, qui est un art qui se veut éphémère, parce qu'en fait, il ne l'est plus. Une fois stockée dans la mémoire de nos ordinateurs, leur image, transitoire, éphémère, peut faire le tour du monde en une fraction de seconde. Alors là, pour nous chrétiens, il y a une réponse que nous donne l'Évangile par rapport aux interrogations de l'Ecclésiaste. Eh bien, voyez-vous, il en sera de même de nos œuvres. Tout ce que nous aurons fait ici-bas, dans le cadre de la vocation que Dieu nous a adressée, dans le ministère, ou dans un travail séculier. Tout cela, si ça peut être stocké sur des ordinateurs, croyez-moi, ça peut aussi être stocké là. Tout ce que nous aurons fait de bon cœur, je cite Colossiens 3, verset 23, tout ce que nous aurons fait de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, ne sera pas oublié. Et dans Apocalypse 14, verset 13, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivre. Oui, l'Ecclésiaste n'est pas un livre pessimiste, mais avant tout un dissipateur d'illusions trompeuses. La sagesse biblique qui prend le respect de Dieu et de ses commandements comme point de départ et l'aboutissement ne s'oppose nullement à la spiritualité et devrait être au départ de la plupart de nos décisions. Commençons par utiliser la sagesse selon l'Ecclésiaste. Et la sagesse biblique se place sous le soleil, c'est-à-dire en observant le monde de manière pragmatique, tel qu'il est, ici et maintenant, pour trouver cet art de vivre sa foi, tant sans fausses illusions. Et elle constate que nous devons accepter nos limites, que tout travail implique un risque et doit être assumé, nous avons besoin d'être compétents et d'avoir de bons outils pour réussir. Tout travail ici-bas reste éphémère à l'image de notre condition humaine, mais tout ce que nous aurons fait dans le cadre de notre vocation chrétienne ne sera jamais oublié. Alors nous passons à un dernier volet de l'Ancien Testament, Le monde qui nous entoure, dont celui du travail, est devenu un monde de plus en plus étranger au message chrétien, à ses valeurs, à sa spiritualité. Nous y rencontrons souvent de l'indifférence, parfois d'hostilité, mais parfois aussi de la sympathie. Peut-on faire carrière et exercer des responsabilités dans un tel monde et à quelles conditions? Alors plusieurs figures de l'Ancien Testament nous montrent que des juifs ont exercé de très hautes responsabilités auprès de monarques païens. Et nous pensons tout de suite à Joseph et à Daniel, avec d'ailleurs une similitude. C'est la compréhension d'un rêve qui les a fait monter au sommet de la hiérarchie. Je voudrais simplement évoquer assez rapidement l'histoire de Daniel. Alors, Nabucodonosor prend donc Jérusalem en 605 et Daniel est déporté pour le service du roi. Il est déporté pour servir à sa cour. En fait, Nabucodonosor achète un peu l'élite du peuple d'Israël pour le former. Il a 3 ans de formation et il reçoit un nouveau nom, celui de Belshazzar. Il ne veut pas se souiller par les aliments qu'il doit manger pendant son stage de 3 ans. Et il négocie donc avec son intendant le fait d'en être exempté. Il obtient cette exemption. Et ensuite, il est présenté à la cour du roi Nabucodonosor, qui remarque tout de suite son intelligence. Et c'est à l'occasion de l'interprétation d'un rêve du roi qu'il devient le chef suprême des sages de Babylone et même le gouverneur de Babylone. Et il va le céder, bien sûr. Il va céder cette place de gouverneur à ses 3 amis. Alors je crois que la carrière de Daniel, elle était tout simplement dans le plan de Dieu. Il a accepté sa vocation, le plan de Dieu pour lui personnellement. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire carrière par ambition personnelle, et ça peut être, et c'est même à tous les coups, un piège. Mais n'avoir aucune ambition au service de notre Seigneur, ce n'est pas positif non plus. Alors il y a une manière d'observer ce que Daniel va accepter et ce qu'il va rejeter, et la manière dont il va le rejeter. Daniel et ses compagnons vont accepter les nouveaux noms, j'en parlais tout à l'heure, car pour eux, il ne s'agit en somme que d'une identité externe, celle qui est perçue du dehors. Alors le monde peut nous nommer, nous surnommer, nous ficher, nous donner un matricule, moi c'était 99341E. Cela change-t-il en quoi que ce soit mon véritable nom, ma véritable identité? Non. Notre identité la plus profonde, seul Dieu la connaît. Daniel ne se soustrait pas non plus, et ça c'est intéressant, aux études qui lui sont imposées. La langue babylonienne, sa grammaire, l'écriture cunéiforme, les mathématiques, le droit, mais aussi l'astrologie, les mythes païens, les religions, la religion babylonienne, et que sais-je encore. Vivre dans le monde implique nécessairement d'en connaître la langue, la culture, l'histoire, l'art, la philosophie, la littérature, les sciences, les techniques, l'économie, le droit, la médecine. Les enfants de nos frères d'Algérie, les enfants de chrétiens d'Algérie, sont obligés de connaître des tas de sourates du Coran par cœur dans leur scolarité obligatoire. Daniel accepte d'étudier, mais il refuse de se souiller en mangeant des mets du roi et en buvant de son vin. Pourquoi cela? Pourquoi ne pas avoir refusé une éducation païenne bien plus pernicieuse? Et puis, par ailleurs, le vin n'était pas interdit en Israël. D'ailleurs, Néhémie, qui vivra un peu plus tard, à l'époque perse, à Babylone aussi, il est les chansons du roi Artaxerxès, il buvait donc son vin. Mais probablement, il y avait un lien entre ces aliments et l'idolâtrie, tout simplement. Ainsi, le vin n'était nullement impur pour un juif, mais très probablement, avant d'être servi au roi, offrait-on une libation aux dieux. Quant aux viandes, elles aussi pouvaient avoir été sacrifiées aux idoles. Daniel avait donc l'impression de violer le premier commandement en acceptant cette nourriture. Dans l'ancienne alliance, l'impureté rituelle est une métaphore de l'impureté morale. En refusant de se souiller par des aliments, Daniel assume donc son identité profonde de membre de l'alliance dont il fait partie. Il restera pur, intègre, en accord avec sa conscience. Daniel n'a pas cherché à faire carrière, c'est Dieu qui l'a préparé aux responsabilités qui sont les siennes, car tel est son appel. Laissons donc Dieu s'occuper de notre carrière. Daniel résolut de ne pas se souiller, tout s'est joué au début de sa carrière. Daniel a accepté d'apprendre la culture, de la société dans laquelle il vit. Les études sont une nécessité pour travailler dans ce monde, et pas un problème, à condition d'être un chrétien affermi. Et Daniel, en prenant la résolution de rester pur, va préserver son identité profonde de membre du peuple de l'Alliance. Il est cohérent avec lui-même, avec ses convictions. Et son obéissance fut en bénédiction, et pour Babylone, et pour son peuple. Il en sera de même pour nous, si nous rentrons dans le plan de Dieu, si nous répondons à sa vocation. Alors, Jésus nous invite à vaincre le monde, dans Jean 16, verset 33. Qu'est-ce que c'est que vaincre le monde, si ce n'est conserver sa vocation, son identité d'enfant de Dieu, appelé à la sainteté face à un monde qui veut nous englober et nous conférer une identité autre. Et à certains moments de notre vie, il nous faut prendre position pour Dieu ou pour Jésus-Christ, être et rester cohérent. J'aurais bien aimé évoquer un peu plus longtemps une seconde figure que j'aime beaucoup, c'est celle de Naaman, mais vous trouverez tout un chapitre sur Naaman dans ce petit livret. J'ai choisi Naaman, c'est la plus belle figure de d'abord d'un non-juif qui se convertit, qui est guéri de sa lèpre au contact d'Élisée, ce général de l'armée de Syrie, guéri par Élisée de sa lèpre, qui connaît une conversion totale à Dieu. Mais voyez-vous, ce qui me frappe chez Naaman, c'est l'exceptionnelle relation qu'il a avec son supérieur et l'exceptionnelle relation qu'il a avec ses subordonnés. À son supérieur, il s'ouvre de tous ses problèmes personnels. Et après sa conversion, il veut garder la confiance de son supérieur. Il veut garder la confiance du roi de Syrie. Et il envisage de continuer dans ses fonctions, lui qui a abandonné le paganisme. Et je trouve touchant cette question qu'il pose à Élisée après sa guérison. Lorsque le roi ira se prosterner devant la statue d'un de ses dieux, il s'appuiera sur mon bras. Alors, que Dieu me pardonne d'avance parce que je m'inclinerai à ses côtés pour garder la confiance de son supérieur. Et quant à ses subordonnés, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu de pareil dans ma carrière. Lorsque Élisée, pour le tester, ne lui adresse même pas la parole, il lui fait dire, va te plonger cette fois dans le Jourdain. Il lui fait dire, par Kéhati. Et là, il se met en colère. Il va retourner en Syrie et dire, des rivières comme le Jourdain, il y en a d'autres en Syrie. Eh bien, ce sont ses serviteurs qu'il appelle mon père, mon père. Si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu aurais accepté. Alors essaye, tu n'as rien à perdre, c'est un peu le pari de Pascal. Et Naaman se laisse convaincre par ses serviteurs. Ses serviteurs lui ont sauvé la vie, l'ont amené à Dieu, l'ont amené à la conversion. Je n'ai jamais vu un manager. Et l'idéal pour un chrétien, je ne sais pas si certains d'entre vous sont de cette position inconfortable, de ce qu'on appelle le middle line management, c'est-à-dire vous avez un chef au-dessus de vous, vous devez garder sa confiance, exécuter ses consignes, et vous avez des gens en dessous de vous. D'être très bien vu par votre supérieur et très bien vu par vos subordonnés, n'est-ce pas la plus belle carrière dont on puisse souhaiter? Alors nous tournons maintenant la grande page de l'Ancien Testament pour arriver dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous apporte? Je crois qu'il va révolutionner le thème du travail à travers deux grandes bonnes nouvelles. La nouvelle de la grâce, le principe de la justice qui s'oppose à celui de la grâce, le salut par grâce et la transformation de nos relations. Bien sûr, le Nouveau Testament va garder le message de l'Ancien Testament, demander aux chrétiens qui le peuvent de travailler pour subvenir à leurs besoins, afin d'aider les autres, Éphésiens 4, verset 28. Mais il va aussi amener des idées nouvelles dans la société gréco-romaine du 1er siècle. Et la première concerne la grâce du salut. Et nous en trouvons, à mon sens, une illustration dans la parabole des vignerons, ou de l'ouvrier, des ouvriers loués à différentes heures. Nous la trouvons dans Matthieu 20. Et vous vous rappelez de la réponse du vigneron à cet ouvrier de la première heure qui pense qu'il va être payé plus que ce qui lui avait été promis et qui est jaloux de cet ouvrier de la onzième heure qui reçoit aussi un denier comme lui. Voilà ce que dit le vigneron. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors, bien sûr, cette parabole parle d'abord du salut. Quels sont ces derniers qui seront les premiers, sinon les païens qui recevront le salut en Jésus-Christ ? Et que bien des juifs auront méprisé. Elle nous montre en tout cas que dans son principe, le salaire est toujours un dû. C'est la justice. Et la grâce, par essence, ne peut être que gratuite, sans contrepartie. Elle est donc fondamentalement injuste. Et cette injustice en dérange manifestement certains. Si Dieu veut sauver tous les hommes, il ne peut le faire que sur un principe qui semble en opposition à la justice, celui de la grâce. Le seul salaire qui nous est dû, c'est celui du péché. Et qui nous conduit à la mort. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'histoire que Jésus raconte est courante à l'époque. Elle concerne ces ouvriers journaliers venant compléter les effectifs réguliers du vigneron et recruter sur un marché du travail local. Un denier par jour est un salaire juste, car il permet à l'ouvrier de nourrir une famille. Mais tous les ouvriers disponibles sur la place n'avaient-ils pas besoin d'un denier pour vivre ? Alors on comprend que la motivation du vigneron, c'est la compassion. Ceux qui n'avaient pas été recrutés car trop vieux, ou trop jeunes, ou trop chétifs, n'avaient-ils pas aussi besoin d'un denier par jour pour faire vivre leur famille ? Le maître leur accorde donc ce qu'ils n'ont pas mérité, car ils en avaient besoin. Comme les autres, un denier par jour. De la logique du salaire qui est un dû, on passe à la logique de la grâce imméritée par compassion, celle dont nous avons tous besoin pour vivre. Et c'est là que nous rejoignons le thème du travail. Le travail n'est pas une marchandise qui s'apprécie selon les lois du marché, car il concerne des hommes et leurs besoins vitaux. Faut-il accepter la pauvreté des travailleurs face à des salaires du marché astronomique ? Comment fixons-nous les salaires dans nos œuvres ? J'ai eu l'occasion de le faire pour les deux œuvres, de définir une politique des salaires dans les deux œuvres où je travaille. Nous pourrons en discuter tout à l'heure si vous voulez. Le principe de la grâce et de la compassion s'est profondément ancré dans les sociétés sous influence chrétienne et a permis en particulier aux chrétiens du 19e siècle de s'intéresser à la condition ouvrière. Deuxième grande révolution, la transformation des relations. Pour un disciple, le service fidèle d'un esclave à son maître, chrétien ou non, sera rendu comme pour le Seigneur. J'ai lu tout à l'heure ce verset. Il se transforme donc en œuvre pour sa gloire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Ça se trouve donc dans Colossiens 3, verset 22. Et toujours dans ce passage, il y a aussi les maîtres qui sont interpellés. C'est la relation entre serviteur et maître qui est abordée dans ce passage de Colossiens. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, Ancien Testament, justice et équité, sachant que vous aussi avez un maître dans le ciel. Donc, le maître chrétien, ou le supérieur chrétien, sera invité à reconnaître qu'il a aussi un maître au-dessus de lui, et avoir en son esclave ou en son subordonné un chrétien ou pas un chrétien d'ailleurs. Bien plus, il devra se souvenir de son maître qui s'est fait serviteur, parce que justement le maître du patron, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Or Jésus-Christ, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, vous vous souvenez de ce qu'il a fait? Il s'est déshabillé comme un esclave, il a pris un linge, il a lavé les pieds de ses disciples. Que celui qui veut être grand soit l'esclave des autres. Moi, le roi des rois, je me suis mis à votre service, alors vous n'êtes pas supérieur à moi. Lorsque vous avez quelqu'un sous vos ordres, reconnaissez en lui quelqu'un au service de qui vous mettez. Ça ne veut pas dire renoncer à votre autorité, ça ne veut pas dire en faire un copain, ne plus avoir d'exigence dans le travail. Mais de s'intéresser à lui. Alors, c'est un changement de regard complet. C'est un changement de regard complet, en sachant que notre maître à nous s'est fait serviteur. Et c'est cette intervention d'une tierce personne, celle de Jésus, dans ma relation avec mon subordonné ou avec mon supérieur, ça va complètement changer le contenu de la relation, le regard qu'on a sur cette relation. Et c'est parfaitement illustré dans l'épître à Philémon. Toute la délicatesse de Paul qui parle à son ami Philémon du cas d'un esclave qui s'était échappé de son maître et que son maître pouvait tout simplement exécuter. Il ne demande pas, il ne lui commande rien, il l'exhorte. Voyez-vous, les chrétiens n'ont pas demandé l'abolition de l'esclavage, mais ils ont semé une parole pour le vider complètement de sa substance, à condition de mettre sa parole en pratique. Alors, la réforme. Qu'est-ce que la réforme a amené? Il y a trois idées. La réforme, grâce au retour vers des principes bibliques, incluant bien entendu largement l'Ancien Testament, va amener à une vision nouvelle et positive du travail autour de deux concepts essentiellement. L'intendance, c'est une nouvelle vision sur la richesse. Le service et la vocation, c'est une nouvelle vision du travail comme faisant partie d'une vocation. Alors, dans la ligne de l'Ancien Testament, le fait de posséder des richesses n'est pas un problème, à vrai dire. Il peut même être source de bénédiction, et la pauvreté n'est pas un idéal dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez certainement de ce proverbe, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, hein, pour que dans ma pauvreté je ne me rebelle pas contre toi et que dans mes richesses je t'oublie. » C'est ça. Alors, il y a deux paraboles là qui me viennent à l'idée. C'est la parabole des talents. La parabole des talents, peu importe, Matthieu 25, peu importe le nombre de talents, d'ailleurs les trois personnages reçoivent un nombre différent de talents, l'important est de le faire fructifier. Et enfin, une autre parabole qui est un peu plus énigmatique, c'est celle de l'économe infidèle. Et vous connaissez certainement cette parabole qui se termine par la leçon suivante que Jésus donne à ses disciples, qui est un peu surprenant. Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour ce qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Luc 16, verset 9. Finalement, toute richesse que nous possédons n'est-elle pas injuste par essence? Alors, gérons ces richesses avec la sagesse de l'économe infidèle et soyons riches pour Dieu. Quant au service et à la vocation, elles résultent du salut par grâce. Le travail peut devenir un service. Luther, par exemple, mettait sur le même plan l'office du prêtre, la prière du laïc et même le travail d'une mère de famille veillant sur son jeune enfant. Tout ce qui est inspiré par la foi devient œuvre sainte et bonne. Et de même, Calvin écrit, il n'y aura œuvre si méprisée ni si basse qui ne reluise devant Dieu et ne soit fort précieuse, moyennant qu'elle nous qu'en elle nous servions notre vocation. Alors Max Weber, selon Max Weber, le protestantisme a contribué à la naissance du capitalisme. Et on voit de grandes familles protestantes, en France et ailleurs, fonder des entreprises prospères au XIXe siècle. Et la société dans laquelle j'ai travaillé faisait partie de ces entreprises-là. Le grand-père du fondateur était un pasteur baptiste. Et une éthique interne à l'entreprise était d'inspiration. Je n'ai jamais eu de problème de conscience dans cette entreprise. Et comment elle fonctionnait et fonctionnait bien? Eh bien, justement, elle prenait des décisions rationnelles selon la sagesse d'Ecclésiaste, justement, dont nous avons parlé. Elles avaient une bonne organisation. Elles avaient une comptabilité rigoureuse et sincère. Elles choisissaient bien leurs dirigeants. Et leurs dirigeants vivaient simplement et sans ostentation, les profits étant réinvestis dans l'entreprise. Mais en parallèle, dans la ligne de la grâce et de la compassion, les chrétiens du XIXe siècle n'ont pas cessé de s'intéresser à la question sociale. Des pasteurs protestants émus par la misère ouvrière commencent à réfléchir à la justice sociale et de ce mouvement naîtra le christianisme social. L'Église catholique amorce aussi un virage après l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII en 1891. Naîtront aussi, par la suite, en Europe, la démocratie chrétienne et des syndicats se disant chrétiens. Que reste-t-il de tout cela aujourd'hui? Tout ceci semble à présent bien loin. Toute référence chrétienne a été bannie. Notre société s'est totalement sécularisée. L'économie devait être au service de l'homme et donc lui procurer un travail dont il puisse vivre. Et la finance être un moyen au service de l'économie qui a besoin de capitaux pour se développer et investir. Mais tout s'est inversé. Le monde économique, mais aussi politique et social, est devenu d'une extrême fragilité parce que l'écart des richesses n'a fait que se creuser dans le système actuel. Et un membre de ma famille, chef d'entreprise à la retraite, me disait il y a quelques semaines, « Tu sais, Daniel, pour avoir de l'argent, il faut travailler, c'est ce que je dis aux gens. Mais pour s'enrichir, il faut spéculer. » La crise que nous connaissons, la plus grave depuis 1929, a son origine dans la finance. C'est l'escroquerie des subprimes, Lehman Brothers. Pour sauver les banques et l'économie, les banques centrales ont créé des liquidités. Et ces liquidités, par le jeu des crédits qui se font derrière, on entend engendrer d'autres. Nul n'en connaît plus actuellement le montant global. Mais elles entretiennent la spéculation et creusent encore les inégalités sociales. Bien des responsables d'aujourd'hui pressentent que ce système va un jour s'effondrer dans une crise majeure et nul ne sait quand. Alors beaucoup disent qu'il s'agit d'une crise du capitalisme. En réalité, cette crise financière n'a fait que traduire une crise des valeurs. C'est ce que remarquait Henri Blocher dans un article qu'il a donné dans Fac Réflexion. L'amour de l'argent, la cupidité, le vertige du toujours plus possible dans le monde virtuel des salles de marché a peu généré des bulles spéculatives sans rapport avec le monde réel des richesses produites par le travail des hommes dans les entreprises. Et en réalité, c'est Mammon qui gouverne de plus en plus le monde en s'appuyant sur la toute-puissance de son informatique. Sans l'informatique, on n'aurait pas pu concevoir les produits dérivés toxiques. Sans elle, qui permet le trading haute fréquence par robots actionnés par de savants algorithmes, c'est encore elle qui permet à présent de marchandiser absolument tout, même le service que vous rendez à votre voisin. On appelle cela l'ubérisation. Nul ne sait plus où nous allons. Alors je pense parfois, je suis un amateur d'opéra, à cette ère du Méphisto dans le Faust du Gounod, écrit à la fin du 19e siècle. Et cette chanson est devenue plus que jamais réalité. Le veau d'or est toujours debout. On encense sa puissance. D'un bout du monde à l'autre bout, pour fêter l'infâme idole, rois et peuples confondus au bruit sombre des écus, dansent une ronde folle autour de son piédestal. Et la foule lui dit la joie reprend, et Satan contre le bal. Et ceci m'amène à la conclusion. Que dire en conclusion? Le travail et la carrière par nécessité, pour mon épanouissement ou pour la gloire de Dieu? Le travail s'inscrit dès l'origine dans le projet de Dieu pour l'homme, comme nous l'a enseigné la Genèse. Pour la plupart d'entre nous, il est une nécessité. Il est légitime que nous y cherchions du sens, un épanouissement personnel. Mais il ne sera jamais sans peine. Nous sommes appelés à vivre au travail selon les valeurs de l'Évangile. Le travail terrestre s'inscrit alors dans notre vocation chrétienne de vivre dans ce monde sans être de ce monde. Daniel nous en a donné l'illustration. Et malgré le caractère transitoire et éphémère de toute œuvre humaine, comme nous l'a rappelé l'Ecclésiaste, nous pouvons y trouver du sens. Travaillant en cherchant la gloire de Dieu, même dans un travail humble, n'est-il pas pour le chrétien une source d'épanouissement? L'important n'est-il pas dans le regard que nous portons sur ce que nous faisons, comme cet artisan médiéval, constructeur de cathédrales? Il y a trois choses que nous chrétiens avons et que le monde n'a pas. Simultanément. Ce sont des valeurs, du sens et une véritable espérance. Or, c'est l'Évangile qui est le lien entre ces trois éléments. Nous savons que les œuvres que Dieu nous aura confiées ici-bas et qui contribuent à l'avancement de son royaume nous suivent et que ce que nous aurons semé ici-bas, y compris dans un travail séculier, portera du fruit dans l'éternité. C'est là notre espérance. Le lieu de travail n'est-il pas le lieu par excellence pour connaître le monde, pour contribuer au bien de ceux qui nous entourent, pour être les acteurs de la grâce commune, cette grâce que Dieu permet pour tous les hommes, pour que le monde reste vivable malgré tout. Et enfin, le lieu de travail n'est-il pas le lieu idéal pour y vivre notre espérance, y agir selon des valeurs chrétiennes et accomplir ainsi notre vocation d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous, chrétiens, nous savons que les temps de la fin seront des temps difficiles. Alors que notre travail en ce monde, de plus en plus corrompu, soit animé par notre espérance chrétienne et contribue d'une manière ou d'une autre à l'avenir.